Comment se fait-il qu'il soit si difficile de connaître la vérité vraie sur soi-même?
Vous êtes couché chez vous, vous rêvez, vous vous réveillez. Vous savez que vous avez rêvé, qu'une petite histoire en images se déroulait, en quelque sorte que vous faisiez à vous-même une toile. Vous vous en souvenez dans ses moindres détails où il vous reste seulement un mot, peu importe. Et même si ce n'est rien du tout, ça arrive, qu'on ne veuille pas le savoir, vous savez tout de même que ça a eu lieu en vous et que vous ne dirigez pas les opérations tout de même. Même si parfois, on peut avoir l'impression de le faire. Et vous savez que ça voulait dire quelque chose. Et longtemps, on a cru que dans les rêves, dans ces rêves, un dieu vous parlait, que certains, qu'on allait voir, qu'on payait pour ça, mais oui, que certains savaient déchiffrer. Et puis, vous voilà, je vous imagine, couché sur le divan, et le fameux divan, et vous parlez, et c'est comme si à travers vous, un dieu parlait. Je ne veux pas dire que vous êtes en transe, hein. Non, on n'est certainement pas en transe sur le divan, en tout cas, vaut mieux pas, hein. Il vaut mieux pas venir en analyse en ayant absorbé des substances qui modifient exagérément la perception des choses. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas conseillé, hein. Et si le patient arrive, on le renvoie plus souvent, c'est pas propice, n'est-ce pas? Non, si à travers vous, dis-je, c'est comme si un dieu parlait, c'est parce que, avant tout, il y a quelqu'un qui est là pour déchiffrer ce que vous dites. Comme si, voilà, c'est ce que vous dites était aussi mystérieux qu'un rêve. Alors, je disais le divan. Bon, pas de fétichisme du divan. La psychanalyse n'est pas définie par le divan. Il y a des analyses qui se déroulent parfaitement en face à face, le patient étant assis sur un fauteuil. Pour certains patients, il est même nécessaire qu'il en soit ainsi. Par exemple, quand le divan prend la signification... C'est un exemple, hein, être à la merci de l'autre, être livré aux caprices de l'autre. Bien entendu, c'est un fantasme, mais bon, il est quand même certain que celui qu'on appelle le patient, qu'on appelait le patient, se déplace auprès de l'analyste, qu'il est dans une position de demande et que celle-ci comporte, en effet, une certaine démission, une certaine soumission à l'autre, et que le divan peut représenter ça. Et les orgueilleux ont peut-être plus de peine que d'autres à entrer en analyse, parce qu'il faut demander à un pauvre air, demander à quelqu'un, pourquoi vaudrait-il mieux que vous, en effet, il n'y a pas de raison. Mais l'objet de la psychanalyse, ça n'est pas le divan. C'est bien plutôt le psychanalyste lui-même. Ce que Freud a inventé, c'est cet objet nouveau. Quelqu'un qui est capable de se faire cet objet très particulier, qui permet à quelqu'un d'autre de s'éprouver, lui, comme un sujet de plein exercice. Un sujet parlant et parlant sans savoir ce qu'il veut, ni ce qu'il dit, ni même à qui il le dit. Le divan est en quelque sorte le tapis volant qui permet de partir pour ce monde des limbes, mais le dur objet, c'est le psychanalyste. Et c'est lui qui est quand même la nouveauté de cette affaire. Les rêves sont là depuis toujours. Depuis toujours, on s'est intéressé aux malentendus et on y a cherché des sens, mais la vraie nouveauté, la vraie invention, c'est le psychanalyste. Le divan, bon, c'est une espèce de lit. Un lit qui n'a pas d'intérieur. On ne se glisse pas dans des draps. Comme dans un ventre. On s'étend sur la surface. On est plutôt comme un gisant, avec toutes les évocations mortifères qui éventuellement peuvent tourner autour et qui, à l'occasion, effrayent. C'est le vers de Baudelaire, des divans profonds comme des tombeaux. Et alors que le lit est d'ordinaire le lieu où l'on retrouve son corps, le corps qu'on a à l'occasion oublié dans la vie active, et où on retrouve aussi, ça peut tout de même arriver, le corps de quelqu'un d'autre. Le divan, c'est un lit à une place. On pourrait dire, il m'est arrivé de dire que c'était une sorte de vestiaire où l'on dépose son corps, où l'on se dépouille de son corps actif, où on quitte aussi son corps imaginaire, l'image de soi. Et alors il ne reste plus que le troisième corps, le corps qui est notre guenille, que le sujet traîne après lui. Et le divan, c'est un peu comme la poubelle de Samuel Beckett. C'est qu'il faut apporter son corps à la séance. On ne fait pas des séances si on ne vient pas. Et en même temps, il faut le dépouiller. Donc c'est une sorte de machine, le divan, qui ampute le corps de certaines de ses propriétés. Ça l'ampute de sa motricité, de la capacité d'agir. Ça l'ampute de la stature érigée, qui est si importante, dont on suit les progrès chez le petit enfant. Ça l'ampute de sa visibilité, c'est une sorte de corps abandonné, renoncé, fauché, abattu. S'allonger sur le divan, c'est devenir un pur être parlant. Un peu comme je suis là, à la radio. C'est devenir ce que Lacan appelait ce néologisme dont il disait que peut-être un jour il remplacerait le mot d'inconscient, c'est devenir un pur par-l'être, tout en faisant l'expérience de soi-même comme d'un corps qui est parasité par la parole. Un pauvre corps malade de la maladie des parlant. Lacan l'a appelé pour dire au fond le peu d'estime dans lequel il faut tenir le contenu de vérité de la parole. Il l'a appelé le dire-vent. Alors, un dieu, puisque c'est la métaphore que je prenais pour l'inconscient, un dieu qui vous ferait rêver et trébucher pour que vous consentiez à laisser passer de temps en temps un petit morceau, un lambeau de vérité. Dans une analyse, vous apprenez à recueillir ces morceaux de vérité. Et à les coudre, comme un patchwork. Je dirais que c'est coudre la robe de la vérité. que cette robe ressemble à un manteau d'arlequin. Alors je sais bien, on dit la sagesse, dit la vérité vraie, c'est la vérité nue. Mais la vérité n'est pas nue. Enfin, j'invente ça. On croit qu'elle est nue, comme Vénus, sortant de l'onde. On croit qu'elle est nue parce qu'on croit qu'elle est belle. On voudrait qu'elle soit belle. Mais la vérité dont il s'agit dans la psychanalyse n'est pas belle. Elle est moche. C'est l'horreur. Et c'est pourquoi la vérité s'habille d'une robe couleur de temps qui miroite et qui change, comme celle de peau d'âne. Il faut d'abord coudre la robe de la vérité. C'est tout un travail qu'on fait en analyse, que fait l'analysant, le par-lettre. Alors seulement, une fois que la vérité aura sa robe, que vous lui aurez cousue, alors elle pourra l'ôter pour vous. Vous la verrez nue. Et il faudra que vous puissiez le supporter, le spectacle. C'est comme quand la princesse a la robe couleur de temps, se retrouve peau d'âne. Ça fait un choc quand ça se produit. Alors, on parle de la fin de l'analyse. Mais nous n'y sommes pas, nous en sommes au message secret. Dans votre analyse, vous apprenez à les lire, à vous lire. Vous apprenez la langue dans laquelle vous parlez sans le savoir. Ou plutôt, la langue dans laquelle ce Dieu malin, qu'on appelle l'inconscient, vous parle à vous sans que vous sachiez l'entendre. Vous apprenez à lire les messages qu'il vous écrit qui sont cachés dans la langue que vous parlez, qui est le français, par hypothèse. Cette langue qui nous est commune et qui permet que, dans cet instant, je me sente relié à vous, innombrable, que je ne connais pas. C'est par cette langue que ma voix n'est pas seulement pour vous un bruit. Cette langue française, nous ne l'avons pas inventée, elle était là avant nous. Nous l'habitons, nous sommes ses hôtes transitoires. La langue est notre maison, notre demeure, la demeure de nos dits. Nos pensées se forment en elle, et même nos sentiments, et jusqu'à nos émotions. Nous ne l'avons pas inventée, mais elle se réinvente tous les jours à travers nous. Et les dictionnaires, d'ailleurs, peinent à la suivre. Ils ont désormais des éditions annuelles, et pas seulement pour des raisons commerciales. Cette langue nous survivra. Même si on nous a beaucoup expliqué ces temps-ci que son extension n'est plus ce qu'elle était, quand l'Europe parlait français. C'est le beau titre d'un savant ouvrage de M. Fumaroli. Par Europe, il entend les élites européennes qui, au XVIIIe siècle, en effet, communiquait dans la plus belle langue du monde, qui était alors le français. Et il est vrai que les élites européennes aujourd'hui désertent volontiers le français pour l'anglais, ou un paragouin d'anglais, que personne ne prend ce baragouin d'anglais, au moins pour la plus belle langue du monde, je vous le fais remarquer. Il y a en Angleterre un petit village de Cornouailles, le pays de Tristan et Iseult, où j'ai séjourné voici 30 ans. Et dans ce petit village de Cornouailles subsistait, disait-on, une vieille personne, une très vieille femme de pêcheur qui était la seule et la dernière à parler un dialecte qui disparaîtrait avec elle. Pourtant, même quand une langue est morte, qu'il n'y a plus personne pour la parler, la langue demeure. Si elle a été notée, son vocabulaire, sa grammaire, ce qu'on appelle sa structure, dure, et on peut toujours la faire revivre. Après tout, on parle au Vatican quelque chose qui ressemble au latin. On a vu revivre en ce siècle l'hébreu, le catalan qui était une langue orale et passé récemment à l'écrit. On a réinventé le basque, support d'une puissante revendication identitaire. Eh bien, votre inconscient, c'est comme une langue que personne de vivant ne parlerait, mais dont il y aurait pourtant des messages, écrits, disons en hiéroglyphes, et attendant leur Champollion.